Le chômage vous occupe, le chômage vous préoccupe. Occupez les AMPE, occupez les AMPE. Alors qu'un chômeur sur deux n'est pas indemnisé, qu'un chômeur indemnisé sur deux touche moins de 3 000 francs par mois, que ces 100 000 jeunes de moins de 25 ans interdits de RMI n'ont droit à aucune indemnité. Les pouvoirs publics de la 4e puissance économique mondiale risquent toujours d'entendre les revendications des chômeurs et des précaires. Nous sommes nombreux, nous en avons assez d'être bien. Nous sommes nombreux, nous en avons assez d'être bien. Après la mobilisation, lors de la négociation de la convention unidique, alors que les intermittents de spectacle poursuivent leur lutte pour la défense d'un statut qui apporte un minimum de garantie face à la flexibilité généralisée de l'emploi. Salariés chômeurs précaires ou en CDI, ils maintiennent leur revendication pour la réduction du temps de travail à 32 heures sans perte de salaire pour un revenu garanti à toutes et tous au moins égal au SMIC, et poursuivent leur mobilisation. Nous sommes nombreux, nous en avons assez d'être pleins. Nous sommes nombreux, nous en avons assez d'être pleins.
Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC Agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris pluriel, 106.3 MHz. À 20h30, tous les vendredis.
Oui, bonjour. Nous sommes donc pour l'émission Mode d'emploi jusqu'à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel, installée au 45 rue d'Aubervilliers, dans le 18e, 75 018, avec un numéro de téléphone, si vous souhaitez nous appeler, qui est le 01 40 05 06 10. Bien, nous sommes ce soir en compagnie de Henri Leclerc. Henri Leclerc est avocat, ancien président pendant pas mal de temps de la Ligue des droits de l'homme et maintenant vice-président.
Non, président d'honneur.
Et je propose que nous allons parler donc ce soir des droits de l'homme, comme il se doit. Et nous allons commencer par les origines des droits de l'homme et puis les origines aussi de la Ligue des droits de l'homme, puisqu'on en parle. Alors, Henri, tu as la parole pour nous décrire les origines des droits de l'homme.
Bon, les droits de l'homme sont nés dans une tradition philosophique libérale dont on peut parler au XVIIIe siècle, mais n'entrons pas trop dans le détail. Voyons voir simplement que cette idée des droits de l'homme et qui va émerger dès que la Constituante sera réunie, c'est-à-dire lorsque l'acte révolutionnaire sera fait, lorsque les gens vont réfléchir à ce que peut être l'avenir, puisque la Déclaration des droits de l'homme va être proclamée le 26 août 1789, donc très peu après le 14 juillet. C'est un problème essentiel pour eux.
Et très peu après la suppression des privilèges.
Quelques jours après la suppression des privilèges. Et la grande idée des droits de l'homme, c'est que la société d'Ancien Régime avait des règles de droit, mais le droit... Les droits qu'avaient les personnes étaient des droits que le roi leur concédait. C'était des droits qui venaient d'en haut. Alors l'idée extraordinaire, c'est que les hommes ont des droits en tant que tels. Les hommes naissent libres et égaux en droit, et ils ont des droits en tant que tels parce qu'ils sont hommes. Et donc la Déclaration des droits de l'homme de 1789 va définir des droits nouveaux. Elle va dire que, d'abord, on a le droit de faire ce qu'on veut, sauf ce qui est interdit. C'est très important parce qu'on part d'un autre principe, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que la liberté est le principe premier. Et puis, effectivement, la loi peut interdire un certain nombre de choses, mais elle ne peut interdire que des choses qui sont nuisibles à la société. Et on va après définir des grands principes, c'est-à-dire la présomption d'innocence, c'est-à-dire la légalité des peines, c'est-à-dire la liberté de l'expression, la liberté de conscience, la liberté de religion, on va dire la liberté de manifestation, surtout là. Et on va, effectivement, définir des droits, et ils vont vouloir appeler ça non pas seulement Déclaration des droits de l'homme, mais Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, bien entendu, cette déclaration a des failles, et des carences.
On n'est plus des sujets, on est des citoyens.
On est des citoyens, on n'est plus des sujets, c'est très important. C'est-à-dire que ce sont des citoyens. La grande défaillance, d'ailleurs, c'est que on oublie les citoyennes. C'est-à-dire que la déclaration des droits de l'homme, ne disons pas de bêtises, les droits...
Il était un peu macho, hein.
Le mot homme, absolument. Le mot homme est bien entendu conçu dans sa généralité. Le mot homme, c'est l'espèce humaine. Et les droits sont aussi bien les droits de l'homme que les droits de la femme. Et là, il n'y a absolument aucun doute. Par contre, les citoyens, eux, ne sont que des hommes. Et les femmes n'ont aucun droit de vote. Elles sont des citoyennes passives.
C'est ça, oui. Donc, ça commence
comme ça.
1789.
Et ça va continuer. Et alors, le problème, c'est que, bien entendu, on va arriver très vite à des régimes de suspension des droits de l'homme. Mais il y a dans cette déclaration des failles. Alors, bon, c'est d'abord les grandes failles de la Constituante, qui a une œuvre admirable, formidable, qui va fonder la société moderne, mais qui a quand même des failles terribles. C'est par exemple qu'elle va maintenir l'esclavage. C'est quand même pas rien. Il faudra attendre la Convention. Schœlcher pour que ce soit... Non, il va être abrogé une première fois par la Révolution française, le 16 Pluviosan II, par des délégations de députés venus des îles, et ils vont abandonner l'esclavage dans un grand enthousiasme, et Danton dira d'ailleurs, jusqu'à ce jour, nous n'avions déclaré les droits de l'homme que pour nous seuls et en égoïste, aujourd'hui, nous le proclamons, nous déclarons la liberté universelle. C'est donc très important, mais Bonaparte, en 1802, rétablira l'esclavage jusqu'en 1848. Mais surtout, ce qui manque, bien entendu, c'est un aspect social. Et je crois qu'on ne peut pas faire autre chose que de citer Robespierre, qui dit quelque chose d'extraordinaire dans le langage de l'époque. Il dit en 1793, « Vous avez défini la liberté, mais dès que vous l'avez définie, vous avez multiplié les articles pour en préciser les contours, pour ne pas qu'il y ait d'excès, d'abus. Mais vous avez également défini la propriété, qui est une institution sociale, elle a été définie à l'article 17 de la liberté, et vous n'avez rien fait pour la limiter, ce qui fait que votre déclaration est faite pour les tyrans et les fripons. »
C'est ce qui permet au Conseil constitutionnel de faire le numéro.
C'est ce qui permet effectivement au Conseil constitutionnel de dire que la Déclaration des droits de l'homme, qui aujourd'hui fait partie des valeurs constitutionnelles, protège la liberté d'entreprendre,
Et pas le droit au travail.
Ah, mais le droit au travail.
Qui est pourtant dans la Constitution.
Le droit au travail, il est dans la Constitution aujourd'hui par le préambule de la Constitution de 1946. Mais il n'est pas dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. En 1793, les conventionnels esquisseront cette idée, mais elle sera complètement abandonnée.
Bon, alors maintenant, on a eu l'idée des origines,
oui.
Donc de la notion de droit de l'homme. Il faudrait que tu nous dises maintenant d'où vient la Ligue des droits de l'homme.
Eh bien, la Ligue des droits de l'homme.
Et nous faire un petit historique.
Absolument.
Parce que
c'est très important parce que pendant tout le 19e siècle, on va parler des droits de l'homme, mais on va en parler. Alors, en 1848, bien entendu, la Deuxième République essaiera même de faire une nouvelle déclaration et elle affirmera le droit au travail, ce qui est important. Mais tout cela sera abandonné, et le 19e siècle, c'est véritablement un siècle où on peut dire une chose, c'est que les droits de l'homme, dans leurs principes, sont affirmés, mais que les droits des travailleurs ne le sont guère. Hein. C'est toute la période de l'exploitation sauvage dans des conditions, ce qui amènera d'ailleurs Marx à dire que les droits de l'homme sont des droits formels. Hein, et reprendre l'idée de Robespierre un peu, ce sont des droits pour les riches, ce ne sont pas des droits pour les pauvres. Et les pauvres, il faut qu'ils mènent la guerre et puis qu'ils ne s'occupent pas de ces principes. Alors, la Ligue des droits de l'homme va se constituer à un moment sous la Troisième République, longtemps après, c'est-à-dire au moment de l'affaire Dreyfus. À un moment où les droits fondamentaux, là c'est même plus les droits sociaux, les droits fondamentaux sont violés, et violés pour un seul homme. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et là plus rien n'est respecté, c'est-à-dire les faux de l'état-major, le capitaine Dreyfus, qui a été condamné injustement parce qu'il est juif. Et on monte des faux, et l'armée française organise des choses, est complice. Et lorsque Zola dénonce ce crime, enfin, qui consiste à envoyer Dreyfus innocent à l'île du diable, et Zola est poursuivi devant les tribunaux, et il va être condamné, il y a un grand procès qui se déroule, et là, un certain nombre de personnes se réunissent et disent, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on s'organise. Et ils disent, ça ne sert à rien d'affirmer les droits de l'homme s'il n'y a pas des citoyens pour les défendre. Rappelons que c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ils font une association, ce qui est interdit à l'époque d'ailleurs, car la loi sur les associations ne sera que de 1901. Ils sont d'ailleurs poursuivis pour cela. Ils créent une association. Et alors là, ce sont les plus grands, des savants, des intellectuels, on dirait aujourd'hui, des hommes engagés. Et un certain nombre de socialistes, et un certain nombre de personnes, plutôt des intellectuels, mais il y a aussi, ils ont un contact avec les milieux socialistes, et ils créent la Ligue des droits de l'homme. Alors, ils gagnent, puisque Dreyfus va être réhabilité, et là, ils décident de continuer.
C'est-à-dire qu'il, c'est ça qui est une surprise.
C'est ça qui est une surprise, c'est ça qui est le problème. Ils créent cela, n'est-ce pas? Et ils disent, à partir, quand ils le créent, ils font un manifeste en disant, à partir de ce jour, toute personne dont le droit sera menacé pourra s'adresser à nous. Et donc, ils créent la Ligue des droits de l'homme, mais ils ne se contentent plus de l'affaire Dreyfus. Ils disent, après tout, ce qui a permis l'affaire Dreyfus peut le permettre. Et ils disent, ça le permet au plus bas niveau de la société. N'oublions pas que le jour où Dreyfus a été condamné, le même jour, un soldat avait été condamné à mort à Bordeaux pour avoir craché à la figure d'un adjudant.
Ah d'accord, oui.
Et ce qui avait d'ailleurs mis les socialistes, ils hésitaient à venir soutenir cet officier, c'est Jaurès qui avait dit, écoutez, ça suffit comme ça. Quelle importance, que ce soit un officier ou pas, c'est toute l'humanité qui est en cause dans la condamnation d'un innocent et qui avait rallié les socialistes à l'affaire Dreyfus. Et donc, la Ligue des droits de l'homme se constitue, devient une organisation très importante à ce moment-là pour défendre les droits de l'homme. Et surtout, elle va, en particulier sous l'impulsion de son second président, qui est Francis de Pressensé, qui est un député socialiste très proche de Jaurès, elle va donner un contenu social aux droits de l'homme. Et elle va dire que il ne sert à rien.
Ça manquait singulièrement.
C'est-à-dire qu'il ne sert à rien d'être en quelque sorte les gestionnaires d'une société qui respecterait les droits généraux, mais qui laisserait l'injustice sociale. Et la Ligue des droits de l'homme va avoir une orientation sociale. Alors elle va se battre sur un certain nombre de thèmes très importants, qui sont des thèmes de défense des droits, comme Sacco et Vanzetti, comme la réhabilitation des fusillés pour l'exemple de la guerre de 14. Elle fera rien contre la guerre de 14. Elle se ralliera, comme tout le monde, à l'Union sacrée.
Oui.
Mais elle protestera contre les exécutions injustes des soldats, etc., les mutins, enfin toutes ces histoires, et elle mènera une très belle campagne, elle se battra, mais elle continuera à se battre sur le plan social, et elle exigera qu'on change le régime de droit, elle demandera qu'on défende le droit des travailleurs, et c'est ainsi qu'elle sera à la tête du mouvement de Front Populaire, à tel point d'ailleurs, que le pacte de Front Populaire sera signé à son siège social rue Jean Dolent.
Oui.
Et donc la Ligue des droits de l'homme a continué après, bon, à la guerre, pendant la guerre, elle a été évidemment très très décapitée par les nazis, et elle est repartie après la guerre, alors que son président Victor Bach avait été exécuté par les miliciens dans des conditions atroces à Lyon, et elle va repartir après-guerre sur un terrain nouveau, parce que c'est un terrain qui est défini par la Déclaration universelle des droits de l'homme.
C'est ça.
Alors là, disons un mot quand même
de la Déclaration universelle.
Là, c'est très important parce que c'est la Déclaration universelle, c'est après la guerre. Les Nations Unies viennent de se réunir, les gens sont... Et ils vont dire dans leur préambule des choses terribles. Ils vont dire dans leur préambule, la méconnaissance des droits de l'homme a conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité. C'est-à-dire que les nations sont sous le choc encore de ce qui s'est passé. On vient de découvrir la Shoah, c'était effrayant. Et donc ils disent, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ils veulent construire un monde, et ils définissent les quatre libertés fondamentales. C'est ça, c'est très important. Dans le préambule, après le texte, il y a beaucoup d'autres choses. Mais dans le préambule, ils déclinent quatre vérités fondamentales. Premièrement, la liberté, un monde où l'homme serait libre de parler et de croire, c'est-à-dire la liberté d'expression, la démocratie, de parler et de croire, c'est-à-dire la liberté de conscience, ça c'est très important, la liberté de conscience, et ensuite, libéré de la terreur, c'est-à-dire la liberté individuelle, et ils ajoutent, et de la misère. C'est-à-dire que le monde ne peut être un régime de droit. Et donc là apparaissent effectivement les droits sociaux, que si on est libéré de la terreur mais de la misère aussi.
C'est ça.
Et donc ils vont définir, la plupart des nations vont le signer, quelles sont les seules nations qui s'abstiennent, il n'y a personne contre, c'est quelques régimes sous le joug soviétique évidemment, parce que toujours la vieille idée de Marx, ce sont des droits formels, etc., c'est pas suffisant, on n'est pas allé assez loin, et puis l'Arabie Saoudite, pour des raisons que l'on comprend, c'est-à-dire le fanatisme islamiste, et l'Afrique du Sud, à cause de l'apartheid. C'est les seuls qui se sont abstenus. Et depuis, tout le problème est celui de cette Déclaration universelle des droits de l'homme, dont on peut bien dire qu'elle n'est appliquée nulle part.
Donc, peut décrire des pays qui sont sans état de droit, tout simplement. Hein, des pays qui ont un état de droit, mais exclusivement théorique. Et puis des pays qui ont été, au moins, qui sont encore plus ou moins dans une situation d'état de droit, mais où moi j'ai le sentiment que l'état de droit est en train de s'écailler.
Ben, bien sûr.
Hein, et alors, en fait, qu'on parle un peu de ces trois.
Ben oui, alors, bien entendu, il y a des pays, je dirais même des pays où il n'y a pas d'État. C'est-à-dire que ce sont des pays où il n'y a plus de règles légales. Où l'exploitation et la misère sont constantes et où le pouvoir est entre les mains du plus fort, du plus puissant. Je pense malheureusement qu'un certain nombre de pays africains sont dans cette situation, c'est-à-dire qu'on ne peut même plus parler de véritable État. L'Afrique est dans une situation dramatique, enfin pas toute l'Afrique, mais une grande partie de l'Afrique, où les États, surtout de l'Afrique subsaharienne...
Ça, c'est l'héritage du colonialisme.
Entendons-nous bien, je veux qu'on soit bien clair. Il est évident que ce sont les conséquences du colonialisme, les conséquences nettes. Hein. De même que quand on parle par exemple de la misère d'Haïti et du drame d'Haïti qui ne vit que sous la dictature, ce sont les conséquences de l'esclavage. Hein. Donc le colonialisme a laissé une situation derrière lui, une situation où il n'y avait plus d'État, et donc il fallait tout construire puisque le colonialisme n'avait pas permis à ces pays d'avoir de véritables structures étatiques. Et où le colonialisme, voulant continuer son exploitation, a mis en place des espèces de gérants, qui ont été des gérants exploitants, mais avec des armées, donc la force qui se met en place. Et en définitive, les dictatures succèdent aux dictatures, mais sont toujours très liées au monde occidental et à la France,
aux intérêts occidentaux.
D'où les affaires, d'ailleurs, d'où les retours, les commissions, tout ce qui se passe. C'est-à-dire que cette situation gangrène aussi, et bien entendu, des pays qui vivent dans une misère, des pays qui n'ont même plus de structure, où les gens sont dans des situations absolument abominables, il y a là effectivement quelque chose qui est absolument tragique.
Il n'y a pas d'État de droit, tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'État.
Il n'y a pas d'État.
C'est ce que tu dis.
Il n'y a pas d'État. Or, l'État est par nature protecteur de droits qui peuvent être injustes, mais au moins d'une structure, qui est une structure qui fait qu'on ne passe pas en permanence d'une dictature à l'autre et d'une exploitation intense des richesses de ces pays par nous. Par les puissances occidentales, bien entendu, avec la dette qui les accable et l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Alors ça, c'est effectivement la première situation avec tous les drames que l'on connaît, c'est-à-dire ce qui se passe dans ces pays avec le génocide du Rwanda, enfin des choses qui sont absolument effrayantes.
Alors ensuite, nous en venons à des États, alors là ça existe, qui sont théoriquement des États de droit. Alors tu vois, je pense à des choses comme la Chine, l'Algérie ou autres, où ces droits sont entièrement théoriques.
Alors, ce sont des pays, ceux-là, qui sont des États forts, organisés, qui souvent d'ailleurs rejettent le principe même des droits de l'homme, qui le rejettent en vertu d'une conception qui consiste à en contester l'universalisme. À dire les droits de l'homme, c'est une invention occidentale.
C'est ça.
Alors, bien entendu, je suis tout à fait d'accord, les droits de l'homme sont une invention occidentale, mais ils ont acquis leur statut d'universalisme en 1948, mais surtout, que nous soyons responsables de la situation, que nous ayons, au nom des droits de l'homme, conduit des guerres coloniales, c'est évident, mais notre responsabilité, que l'on nous renvoie toujours à la figure et que nous acceptons, enfin que nous devons accepter en tout cas, notre responsabilité, ne leur permet pas de ne pas respecter les droits de l'homme. C'est trop facile comme justification.
Surtout quand il s'agit de la Chine, par exemple.
Ben alors, c'est trop facile, n'est-ce pas, de dire « Oui, nous, Chinois, nous avons une autre conception. D'ailleurs, nous sommes marxistes, car ils le sont toujours en principe. Et regardez, Marx avait bien dit que c'était les droits formels. »
Donc, c'est nous les droits de l'homme.
Oui, il avait bien dit que c'était les droits formels, mais enfin, on est d'accord. D'ailleurs, moi, je dis aux Chinois une chose qui me paraît évidente. C'est que, quand je parlais tout à l'heure de l'insuffisance de la Déclaration des droits de l'homme en matière de droits sociaux, mais c'est tout à fait vrai, quand la Déclaration universelle dit libérer de la terreur et de la misère, elle a tout à fait raison. Alors, nous sommes, nous, libérés de la terreur. Mais ce n'est pas pour que, au nom de la libération de la misère, on fasse régner la terreur. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il faut tenir les deux bouts. On a cru, et c'est toute l'histoire des régimes communistes, les régimes communistes ont cru qu'on pourrait instaurer un État juste sans respecter les libertés individuelles. Et dans le même temps, les États occidentaux disaient, on respecte les libertés individuelles, mais tant pis s'il n'y a pas de justice. Eh ben non, les deux sont nécessaires.
Tant pis s'il n'y a pas de justice sociale.
Ouais, pas de justice sociale. Les deux sont nécessaires. Les deux sont nécessaires. Or, les Chinois ont actuellement un régime qui est un régime criminel, un régime de terreur. Un régime de terreur qui est tout à fait effrayant. Alors, d'un régime de terreur qui, le nombre d'exécutions, le nombre de gens qui sont dans les camps de prisonniers, l'exploitation terrible d'un certain nombre, c'est un régime effrayant. Ça, c'est le premier point. Et d'ailleurs, avec lequel on a de très bons accords parce que c'est un marché juteux.
Bah, bien sûr.
Et que, bien entendu, nous sommes très...
1,2 milliard.
Bah alors, nous sommes très exigeants sur le plan des droits de l'homme, mais tout de même, c'est un marché juteux. Alors, ça, on ne peut pas laisser tomber un truc comme
alors,
ça.
Alors, on s'éteint un peu sur les droits de l'homme, là-dessus.
Ah oui, alors ça, c'est tout. Et alors, il y a d'autres régimes qui, au nom... Alors, c'est extraordinaire, parce que c'est au nom de la défense de la République contre les islamistes. Et là aussi, nous avons les délires du fanatisme religieux. C'est ce que nous avons connu en Afghanistan, bien entendu. Et c'est pas la peine d'insister aujourd'hui sur ça.
Mais
pour résister à ces menaces de l'islamisme, on ne va plus respecter aucune liberté. Et l'État devient un État complètement oppresseur sous prétexte que pour lutter contre les ennemis de la liberté, il ne faut pas leur donner la liberté.
Ben oui. Ça, oui.
Mais le problème, c'est que si on lutte contre le terrorisme ou contre l'islamisme sans respecter les libertés fondamentales, le terrorisme, il a déjà gagné. Puisqu'en définitive...
Bon, t'es un peu en train de décrire l'Algérie, là, je crois.
Ben oui, ben c'est l'Algérie, ça. C'est l'Algérie. C'est l'Algérie. En fait, l'Algérie est un pays, et la Tunisie a marché sur ses traces, ce sont des pays où les libertés individuelles ne sont plus respectées au nom d'une lutte toujours constante, mais ce qui n'empêche que ce sont des régimes dans lesquels la corruption a largement sa place aussi, ou un certain nombre de dirigeants. Bon, donc, je crois que ce sont des régimes qui ne sont qu'apparemment des États de droit, ce sont des États, on peut dire que ce sont des États, mais ce sont des États qui ont un droit qui est un droit contraire aux droits de l'homme.
Maintenant, si je crois qu'on a fait le tour rapidement. Là. Moi, j'aimerais bien venir aux pays qui ont été des États de droit et qui continuent à l'être, d'ailleurs dans une certaine mesure, mais de droit, comme j'ai dit tout à l'heure, de droit qui s'écaille. Je pense au cas des USA et je pense au cas français. Alors, le cas des USA, quand on voit que les gens qui se font exécuter, qu'on tue, quoi, je veux dire judiciairement, hein, au travers d'injections, au travers de chaises électriques, etc., etc. Et il se trouve que c'est fondamentalement des pauvres. Tu dois pouvoir nous donner des détails là-dessus. Puis, il y a un deuxième point qui me paraît intéressant, c'est l'affaire de Guantanamo, quand même. C'est-à-dire qu'on pique des talibans en Afghanistan, on les amène à Guantanamo et Cuba, et là, ils n'ont strictement aucun droit d'aucune sorte. C'est quand même intéressant comme disparition progressive des droits de l'homme.
Je crois que ça vaut la peine de s'attarder un peu sur les États-Unis.
Je crois que
ça vaut la peine de s'attarder un peu sur les États-Unis pour deux raisons. D'abord parce que les États-Unis sont, au même titre que la France, la patrie des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on peut bien dire que la guerre d'indépendance américaine va susciter des déclarations, comme la déclaration de Virginie, puis la constitution américaine, qui définit un régime de droit, qui est un régime de droit très important. Mais là aussi, pas de droits sociaux d'ailleurs. Des droits fondamentaux, mais qui ne sont pas des droits sociaux. Et là, le développement du capitalisme aux États-Unis, le cynisme avec lequel les États-Unis se sont développés dans une culture de mort, car il faut tout de même pas oublier que les États-Unis se sont développés d'abord sur l'esclavage.
C'est les plus grands massacreurs de l'histoire.
Il a tout de même fallu la guerre de sécession pour abroger l'esclavage. Dans la deuxième partie du 19e siècle. C'est quand même énorme.
1865,
et ensuite, le massacre des Indiens, qui reste tout de même quelque chose d'effrayant, au nom des droits de l'homme. Bon, là, il y a quelque chose. Bon, donc, dans l'histoire des États-Unis, il y a un point. Alors, c'est vrai que les États-Unis, dans ce qu'est l'apogée du capitalisme, mais en même temps du libéralisme, ont affirmé des principes de défense des droits. Personne ne peut contester. Ce n'est pas uniquement pour des raisons qui sont des raisons économiques que les États-Unis sont venus en Europe en 1914 et surtout, bien entendu, pendant la Deuxième Guerre mondiale, où personne ne conteste l'apport des États-Unis à l'écrasement du nazisme. Enfin, ça serait oui, injuste de ne pas le reconnaître. Et donc, les États-Unis sont une grande nation démocratique, une grande république, comme la France. Et pourtant, mais ça a été même pas. Même pas parce que c'était une grande nation démocratique qui massacrait les Indiens. Nation démocratique qui a mené la guerre d'Indochine. Et donc, au fond, il y a toujours eu aux États-Unis un privilège pour le citoyen américain, avec en plus une terre d'immigration extraordinaire, c'est-à-dire que tout ce qui était États-Unis venait, la grande difficulté d'intégration des Noirs après l'esclavage, etc. Mais en même temps, c'était un endroit où les libertés individuelles ont été bien mal respectées. Je pense à l'exécution de Sacco et Vanzetti en 1922, l'affaire des Rosenberg en 1940.
Tous des gens qui étaient évidemment innocents.
Et donc il y a là des comportements des Américains, mais alors aujourd'hui, des choses ont atteint à l'intérieur même des États-Unis. Je ne parle même pas de la politique mondiale des États-Unis qui pose un problème, parce que l'extension de la mondialisation sous dictature américaine est responsable de tous ces États de non-droit dont on parlait tout à l'heure. Bon. Mais à l'intérieur même des États-Unis, je voudrais dire quand même qu'une chose qui est terrible, il y a actuellement largement plus de 2 millions de prisonniers dans les prisons américaines.
C'est-à-dire 1% de la population, à peu près.
C'est-à-dire presque 1% de la population. Ce qui, en France, ferait 600 000 ou 700 000 personnes dans les prisons. C'est quelque chose d'absolument considérable. Considérable. En France, c'est 50 000 à peu près. C'est-à-dire 10 fois moins. Et on trouve qu'il y en a trop. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais aux États-Unis, c'est devenu... Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est...
Et bien sûr, tout cela, c'est des pauvres.
Ah, bien entendu. Pas tous, mais une grande majorité sont des pauvres. Une très grande majorité. La proportion, d'ailleurs, quand on compare les proportions de la population noire et de la proportion dans les prisons, la proportion des latinos américains et leur proportion dans les prisons, mais surtout les pauvres, je dirais, en règle générale, car un pauvre américain n'a pas beaucoup plus de chance qu'un noir.
Voilà, bon. Y compris un pauvre blanc.
Quoi, y compris un pauvre blanc, c'est les pauvres. Ce qu'il y a d'extraordinaire aux États-Unis, où il y a un mouvement intellectuel, un mouvement de réflexion qui est toujours resté très fort, et même souvent progressiste, où des réflexions ont été menées sur la délinquance, surtout sur la délinquance des pauvres, qui est toujours une forme de révolte aussi, sur les politiques de prévention qui sont nécessaires, sur ce que doivent signifier la prison. Eh bien, aujourd'hui, on a supprimé les budgets sociaux, on a réduit les budgets sociaux, et dans les États américains, les budgets sociaux disparaissent en même temps et de façon parallèle à une augmentation des budgets pénitentiaires. On construit des prisons et on ferme des écoles, exactement le contraire de ce que souhaitait Victor Hugo. On construit des prisons et on met de plus en plus de personnes dans les prisons, 2 millions de personnes quand on y pense, c'est quand même effrayant, et qui ont un poids économique aux États-Unis, parce que c'est pas rien, on les fait travailler en plus les gens. C'est véritablement quelque chose qui est effrayant. Et puis à côté de cela, il y a les 3500 personnes qui attendent dans les couloirs de la mort.
C'est ça, oui.
Alors là, nous sommes en face d'une situation où, qu'est-ce que vous voulez, la peine de mort, et tout de même si elle a été maintenue, hélas, par la Révolution française, mais la peine de mort a toujours été considérée par les défenseurs des droits de l'homme comme une aberration. Elle est aujourd'hui, d'ailleurs, la prohibition de la peine de mort constitue l'article 2 de la charte européenne, et je pense que c'est bien. La peine de mort, c'est une négation de l'individu, c'est une conception d'un État qui peut tuer, quelles que soient les situations. À mon avis, un État qui tue, quoi qu'aient fait les gens, est un État dont on ne peut pas dire qu'il respecte véritablement la personne humaine. Ça, je crois que c'est extrêmement important, et donc les États-Unis, sur ce point, sont insupportables. Indépendamment, encore une fois, de tout ce qu'ils font par ailleurs. Et quand on voit la misère des États-Unis, on peut se poser des questions.
Je rappelle que nous sommes dans l'émission Mode d'emploi et en présence de Henri Leclerc, et qui est le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, et le sujet de l'émission, c'est précisément les droits de l'homme. Bien, alors nous revenons à l'émission. Nous avons commencé à parler des États-Unis avec l'affaire des prisons, enfin tout ce dont tu viens de parler. Mais moi, je crois qu'il y a quelque chose à voir aussi côté Guantanamo, là.
Ah, alors, côté là, Guantanamo.
C'est fantastique.
Mais c'est très américain, ça. C'est-à-dire que... Alors, Guantanamo, c'est une base américaine à Cuba, hein. Sur le respect des droits de l'homme, je rappelle le blocus de Cuba, qui est quand même une atteinte intolérable aux droits de l'homme, mais enfin, ils ont conservé une base militaire à Cuba, et on y emmène actuellement les prisonniers talibans ou les prisonniers d'Al-Qaïda, on ne sait pas très bien d'ailleurs qui sont les prisonniers exacts qui y sont enfin, formés.
Bref, ceux que les Américains ont décidé d'embarquer.
C'est ceux que les Américains ont décidé d'embarquer, et ce sont des gens qui sont traités dans des conditions qui sont absolument insupportables. C'est-à-dire que, alors, quoi qu'aient fait ces gens, même s'ils ont participé à ce qui est un crime abominable, un crime monstrueux qui est la destruction des tours américaines, enfin, personne ne va considérer qu'il ne s'agit pas là d'une atteinte aux droits fondamentaux les plus évidentes. Mais, même, quel que soit le degré de participation de ces gens-là, un être humain a le droit d'être traité en être humain, justement parce qu'il est un homme, même si on le punit, même si on le sanctionne. Or, les gens sont emmenés là-bas. On leur a mis une espèce de tenue orange, je ne sais pas si vous avez vu, les pieds entravés, les mains entravées. Ils sont d'ailleurs pratiquement portés et dans une situation d'humiliation. On leur a rasé la barbe. Bon. Est-ce que c'était bien nécessaire de leur raser la barbe ? Je dis ça pourquoi ? Parce que la barbe était bien entendu le symbole de ce qu'il faisait. Mais est-ce que ce n'est pas une humiliation inutile? Alors, on leur a rasé la barbe, on les nourrit, je ne sais pas comment.
Bouche n'a pas de barbe, hein.
Comment?
Bouche n'a pas de barbe.
Oui, bouche n'a pas de barbe, c'est ça, alors. Donc, on leur a rasé la barbe. Bien. On les met dans des cages, en plein air. Alors, il fait chaud le jour, froid la nuit. Et nous assistons là à un acte de barbarie. Eh bien, je le dis tout simplement, et je dis, je n'ai aucune tendresse pour les gens fanatiques qui ont commis les crimes abominables du 11 septembre, mais ce sont des êtres humains qui ont le droit d'être jugés, ou on les considère comme des prisonniers de guerre, et ils sont protégés par les conventions de Genève, et donc ils ne doivent pas être traités comme ça, ou on les considère comme des délinquants de droit commun. Alors, on devrait les juger sur place, mais enfin le vainqueur se donne le droit de les entendre, mais alors qu'on leur donne les droits fondamentaux d'une personne qui est jugée pour un crime qu'il a commis, c'est-à-dire la présomption d'innocence, le fait qu'il ne peut pas être condamné si on ne prouve pas qu'il est coupable, deuxièmement le droit à une défense, le droit à un procès juste et équitable, qu'on leur donne tout cela. Mais cette situation est une situation insupportable, d'ailleurs toutes les grandes associations de défense des droits de l'homme dans le monde, et même la Croix-Rouge, qui en général est beaucoup plus modéré que cela, sont intervenus pour dire que c'était insupportable. Là, nous assistons à quelque chose, à une espèce de droit de vengeance. Quelquefois, on a l'impression d'assister. Les États-Unis n'ont pas perdu l'esprit des westerns. Je renvoie les amoureux du cinéma à ce que l'on a vu dans les westerns, je dirais de la première génération, parce qu'à la fin, les intellectuels américains en ayant réfléchi, mais tous ces westerns, n'est-ce pas, on voyait traiter les Indiens, traiter les bandits, n'est-ce pas, la façon dont tout cela a été fait, bon, ben, il y a quelque chose là, une supériorité de l'homme américain qui est insupportable.
Il me semble qu'on n'a pas fait attention suffisamment à ce qu'avait dit Bush, c'est-à-dire qu'on était en croisade.
Oui, oui. Hein, Bush est parti en croisade.
C'est la croisade.
D'ailleurs, il est soutenu par 83% du peuple américain.
Oui, oui.
Ce qui prouve quoi ? Non pas que les Américains sont des personnes mauvaises, on ne va pas faire de xénophobie à l'égard des Américains, mais qu'ils sont complètement dans un système qui est un système où les valeurs fondamentales sont faussées.
Moi, je pense que c'est des abrutis. Enfin,
Non, je ne le pense pas. Non, je ne le pense pas. Je pense effectivement que les valeurs fondamentales sont faussées parce qu'il existe aux États-Unis, j'en ai vu récemment, un certain nombre de gens qui réagissent avec beaucoup de courage. Et il y a une minorité aux États-Unis qui défend d'ailleurs les mêmes valeurs que nous et qui essaye de se battre pour éviter cette espèce de débordement, de déferlement. Moi, je ne fais pas de xénophobie. Je constate que le peuple américain est actuellement trompé, mais c'est tout. Je ne suis pas de ceux qui disent que le...
Je viens d'acheter récemment les bouquins de Chomsky, des bouquins qui ont été écrit après le 11 septembre, précisément, et ça fait partie de ces gens qui ne supportent pas.
Non, mais il y a un certain nombre de gens qui ne supportent pas cette situation.
Bon, et si nous passions au cas français, parce que il me semble que les droits de l'homme qui s'écaillent, c'est vrai aussi en France.
Oui.
Alors quelques signes. Hein. Oui. Le bouquin qui a été sorti par le syndicat de la magistrature Vos papiers, où on s'aperçoit que les flics font sans arrêt des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Bien plus grave encore, il y a récemment eu un jeune tué d'une balle dans la nuque par un flic. Et le flic a été tout simplement acquitté. Alors ça, c'est la justice française qui, à mon avis, a manqué à ses devoirs, en l'occurrence. Mais surtout, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le silence assourdissant des gens qui nous gouvernent. Pour eux, apparemment, ça paraît normal. Mais si c'est normal, alors ça veut dire qu'on confère au premier flic venu le droit de tuer. Bon, et puis alors, il y a... Le dernier signe, c'est la démission du juge Alphen, écœuré parce qu'il appelle la justice à deux vitesses. Alors, qu'est-ce que ça donne pour les droits de l'homme, la justice à deux vitesses ?
Ce que je crois d'abord, c'est qu'il faut revenir à la situation française. Et je rappelle qu'effectivement, nous sommes dans une société qui est quand même profondément injuste. Que le nombre de chômeurs reste absolument considérable. Que le nombre de gens qui n'ont pas un niveau de vie suffisant est extrêmement important. Que les choses dont on parle périodiquement, les problèmes de logement, etc., les problèmes de l'immigration, les difficultés, bon, tout cela montre qu'on est dans une société qui est une société à deux vitesses. Et quand Chirac parlait de la fracture sociale, il avait tout à fait raison. Le seul problème, c'est que...
C'est qu'il s'en fout.
Le seul problème, c'est qu'il a parlé de la fracture sociale, il a été élu sur la fracture sociale, et en décembre 1995, nous avons vu quelle réponse il donnait à la fracture sociale.
Bon, oui.
Donc, il y a perdu
mais même en octobre de la même année, en octobre 1995, il a expliqué que ce qu'il avait dit sur la fracture sociale, il fallait quand même qu'on pas vraiment en tenir compte.
Bien sûr. Enfin, là, on a vu effectivement ce qui s'est passé, la réaction et l'arrivée au pouvoir des socialistes. Qui n'ont malheureusement pas résolu la question.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Et donc, la société française reste une société à deux vitesses, dans laquelle les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Et là, nous avons une situation dont je dis qu'elle est attentatoire aux droits de l'homme. Et lorsqu'on nous dit que nous, les militants des droits de l'homme, nous nous mêlons là de quelque chose qui ne nous regarde pas, que cela regarde les économistes et les politiques, mais pas les militants des droits de l'homme, je dis si.
Ça regarde les
énarques. C'est notre problème. C'est un problème de droits de l'homme fondamentaux. L'égalité entre les citoyens doit également être une égalité de droits, mais sur les droits fondamentaux que sont le droit au travail, le droit à la sécurité sociale, le droit au logement, les droits essentiels, le droit à avoir un niveau de vie suffisant. Bon. Or, sur ce point particulier, il y a ça. Bon. Deuxièmement, nous avons une société qui a créé dans la périphérie des villes, des sortes de ghettos, dont nous savons bien qu'ils existent, et qui sont des lieux de discrimination absolument terribles, où un certain nombre de valeurs fondamentales, de droits sociaux, ne sont plus appliquées, et où effectivement émergent des phénomènes de violence et des phénomènes de délinquance. Je dis ça parce que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est à une dérive sécuritaire. C'est-à-dire que ce à quoi nous assistons, c'est...
Tolérance zéro,
la fenêtre ben, brisée, etc. Alors, tolérance zéro, moi je veux bien qu'il y ait une réponse judiciaire à chaque acte de délinquance, ça ne me gêne pas, ça veut dire savoir quelle est la réponse judiciaire que l'on donne. Le problème, c'est que les élections vont se faire uniquement sur cela, c'est-à-dire plus sécuritaire que moi, tu perds les élections, et donc nous allons assister à une surenchère qui est quoi ? Qui est, face à la délinquance, dont je ne dis pas, quel est un droit de l'homme ? On n'a pas le droit d'être un délinquant. Mais face à la délinquance, lorsque la seule répression prévue, c'est la punition, lorsqu'on pense qu'on envisage aujourd'hui de revenir en arrière sur ce qu'a été un des grands acquis de la fin de la guerre, c'est-à-dire l'ordonnance de 1945 en ce qui concerne les mineurs, qui prévoyait que les enfants qui avaient commis des actes de délinquance, la première chose à faire, ce n'était pas de les enfermer, ce n'était pas de les punir. La première chose à faire, c'était de faire en sorte qu'on puisse les réinsérer dans la société. Bon, la punition pouvant être utilisée comme moyen de réinsertion, mais que l'objectif, ce n'était pas de punir des enfants, c'était de les réinsérer. Ben, on revient là-dessus. Et donc là, il y a des choses qui sont très inquiétantes. Et actuellement, les dérives législatives auxquelles nous assistons sont préoccupantes. Alors, nous avons les lois nouvelles, n'est-ce pas? Bon, alors, on a un système de procédure qui était complètement archaïque. On a fait une réforme qui n'était pas parfaite. À mon avis, elle était très insuffisante, à mon avis. Il fallait aller encore beaucoup plus loin, mais qu'une réforme qui respectait un certain nombre de droits fondamentaux, la présomption d'innocence, on essaie de mettre moins de gens en détention provisoire, etc. Alors, bien entendu, aujourd'hui, on remet tout en cause. Et on remet tout en cause, et les policiers que l'on soutient dans cette réforme, policiers qui protestent, qui manifestent dans la rue, enfin, c'est quand même extraordinaire de voir des policiers qui manifestent dans la rue et des gendarmes qui manifestent dans la rue, ça, on n'avait quand même jamais vu ça. N'est-ce pas, le principe absolu, c'est que la police ne peut être utilisée que pour le bien social, et elle est évidemment complètement dépendante du pouvoir politique. Une police qui serait, une force qui se révolte, c'est un danger considérable. Alors là, la tendance consiste à tout permettre, y compris le permis de tuer, qui commence à être donné de la façon la plus large.
Non, mais moi, l'impression que je retire de toute cette situation, c'est que le citoyen me paraît, moi, de plus en plus autonome, et de plus en plus individualiste, mais au mauvais et au bon sens du terme, hein, les deux. Bon. Et que tout le sécuritaire, le fait qu'on donne aux flics pratiquement n'importe quel droit, qu'on supprime le contingent, hein, pour ne garder que de l'armée de métier, etc., qu'on fait du Vichy-pirate, alors que manifestement on n'en a pas besoin. Enfin bon, tout ça, ça va avec... des vidéos partout, ça va... Bon, c'est-à-dire, c'est pour impressionner le citoyen et que le citoyen se tienne tranquille et laisse, en définitive, gouverner les énarques.
Hein. Oui, je crois que... Enfin, je crois que le problème est plus complexe encore. Je crois que ce qui se passe, c'est que les phénomènes de délinquance, d'accroissement de la délinquance sont incontestables. Ça ne sert à rien de les nier. Il y en a. Et surtout d'accroissement de la petite et de la moyenne délinquance.
Ce qui m'intéresse, c'est les raisons, moi.
Voilà. Or, le problème, c'est qu'au lieu de s'attaquer aux raisons, lorsqu'il y a des phénomènes de délinquance, et bon, qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas amplifiés, la réaction normale du citoyen, c'est « protégez-moi, arrêtons ces gens-là, punissons-les ». Et si on les punit, ça va. Or, on sait que la punition ne résout jamais la question. Jamais. On enferme les gens dans les prisons, ils en sortent encore plus délinquants qu'avant. Donc, c'est pas la question. Et donc, le problème, c'est un problème de prévention. La solution de la délinquance dans les banlieues, elle n'est pas dans l'accroissement de la répression, elle n'est pas dans des pouvoirs de plus en plus grands donnés aux policiers, qui font que les citoyens ordinaires, même s'ils sont gênés, même si on ouvre leur coffre de voiture, comme on vient de le voir récemment, de façon normale, vont dire après tout, j'accepte cette limitation de ma liberté pour qu'on puisse punir les méchants. Le problème, c'est de décupler les budgets sociaux. Le problème, effectivement, c'est que ainsi, on crée véritablement des budgets sociaux. Si on crée une situation qui fasse que la délinquance ne soit plus l'objectif principal d'un certain nombre de jeunes qui n'ont pas d'autre forme d'expression, à ce moment-là, on résoudra la question. Mais on ne la résoudra pas par la répression. Et cette idée absurde de dire qu'on va résoudre avec la tolérance zéro, eh bien, c'est quelque chose de terrible parce que les citoyens acceptent de voir leur propre liberté réduite au nom de cette sécurité. Et ça, c'est très dangereux parce qu'on ne résout pas le problème de délinquance, on ne fait qu'accroître, mais on limite l'ensemble des libertés.
Oui, pour les banlieues, est-ce qu'il n'y a pas un autre phénomène? C'est-à-dire que, en particulier, la délinquance est due à des jeunes, très souvent. Est-ce qu'il n'y a pas une raison qui est encore plus profonde, politique, liée essentiellement à l'emploi? C'est-à-dire que le manque d'emploi exclut les gens d'une société et ces gens reconstituent une autre société qui est sauvage.
Absolument, non, mais je crois que vous avez tout à fait raison. Je crois que la cause de la délinquance... Alors, essayons de voir quelles sont les causes de la délinquance. Les causes de la délinquance, c'est effectivement... Il y en a une série. Mais elles reposent toutes sur une chose, c'est que ce sont des jeunes qui sont exclus de la société. Et ils ont été exclus de la société d'abord en raison de leur origine. Car il faut voir qu'une grande partie de cette jeunesse de banlieue est émigrés, d'origine émigrée, soit de la première, ouais, soit de la deuxième, soit de la troisième génération, que m'importe, on les a parqués dans des ghettos. Avec en plus une absence de droit, très souvent. C'est tout le problème des sans-papiers sur lesquels on pourrait aussi beaucoup développer, etc. Ils sont dans des conditions de logement qui sont détestables, chez leurs parents, ils ne peuvent pas sortir. Pourquoi ils ne peuvent pas s'en aller ? Parce qu'ils ont, d'abord, ils n'ont pas ailleurs où aller, ensuite, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas d'argent. Donc, comme ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas d'argent, alors vous avez toute l'économie souterraine qui se met en place, la drogue, un certain nombre de choses, et puis ils ne savent pas où aller. Et quand je vois une loi qu'on vient de faire, la loi sur la sécurité intérieure, qui interdit aux jeunes de se réunir dans les halls d'immeubles, mais où est-ce qu'on veut qu'ils se réunissent ? On veut qu'ils ne se réunissent pas. C'est-à-dire que vous n'aurons plus que des phénomènes de bande.
Si, en tôle,
voilà.
Ils ont que là pour se réunir.
Et voilà, c'est ça. Et donc, on arrive à une situation qui est une situation où on crée pratiquement inéluctablement la violence et la délinquance, puisque c'est les sorties maximum. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Alors, vous avez bien entendu derrière cela le racisme qui se profile. Regardez, ceux qu'on arrête, c'est toujours des gens qui sont prénommés Mohamed ou Rachid. Ah oui. Le problème, c'est que si on voit les pauvres, ils sont prénommés Mohamed ou Rachid. Et donc, l'idée extraordinaire de l'intégration à la française, etc., bon, ça marche pour 5%, pour 8%. Pour le reste, ils sont parqués dans des ghettos. Et donc, il y a des difficultés extraordinaires. Il y a des moments de jeu, des moments d'expression. Et il y a effectivement des phénomènes de délinquance. Mais, encore une fois, tout le problème est un problème de prévention. Et je crois que c'est l'essentiel, justement, du message des droits de l'homme qui est là. Parce que les droits de l'homme, ça consiste à dire aux gens, vous avez des droits, premier point. Et deuxièmement, vous êtes citoyen. Et donc, pour défendre vos droits, vous avez l'exercice des droits du citoyen. Mais si on ne leur donne pas de droits de citoyen, si on ne leur donne pas la possibilité d'être citoyen, à ce moment-là, ils prennent les droits. Ils les prennent. Et donc, on se trouve dans... Or, quel est le problème ? Le problème, c'est de créer des espaces de droits. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Il va peut-être falloir un jour renier un certain nombre de profits. Ah, me dit, mais oui, mais si vous reniez les profits, l'argent va partir à l'étranger. C'est ce qui se passe actuellement. La France s'appauvrit. Pourquoi ? La pauvre s'appauvrit parce que, paraît-il, c'est ce qu'on lit. La France s'appauvrit, pourquoi ? Parce que l'argent part à l'étranger. Parce que franchement, en France, on limite trop le profit, n'est-ce pas ? Il y a les impôts, etc. Ben oui, mais enfin, il faut quand même bien se décider un jour à savoir si on partagera un peu. Et si on décide de rogner un peu plus les profits.
La réponse a déjà été donnée, c'est non, hein.
Ah ben non, mais
la réponse a déjà été donnée.
Mais c'est pour ça qu'il faut.
Le libéralisme, c'est ça. Hein.
Eh ben c'est pour ça qu'il faut se battre pour les droits de l'homme. Et contrairement à ce que pourraient penser certains, se battre pour les droits de l'homme, ce n'est pas seulement se battre pour la liberté d'expression. Ce n'est pas seulement pour se battre pour la liberté individuelle. Ce n'est pas seulement se battre pour défendre toutes les victimes dans le monde. Parce que ça, c'est vrai, il faut la solidarité avec les victimes des dictatures, la solidarité avec les victimes de la misère dans le monde, mais il faut aussi ici se battre pour que nous ayons une politique qui soit respectueuse des droits de l'homme.
L'impression de mise en cause assez généralisée de l'état de droit.
Oui.
Si tu veux, qu'est-ce qu'on fait en face de ça ?
Je crois qu'on peut reprendre cette idée. Je crois d'abord qu'il n'y aura pas de solution aux droits de l'homme dans un seul lieu du monde. Je crois effectivement qu'il y a une solidarité mondiale à laquelle maintenant nous ne pouvons plus échapper. Pourquoi ? Parce que la mondialisation, la globalisation, la mondialisation de l'économie, tout cela, bon, c'est un fait. Et c'est un fait qu'il faut constater. C'est absurde de dire qu'il faut combattre la mondialisation, on ne va pas se replier sur nous-mêmes. Et on ne peut pas, il faut l'organiser différemment.
Comment ? On est bien d'accord.
Tout le monde est d'accord, je crois, là-dessus. Or, face à cela, nous sommes donc tous solidaires. Et si l'on prend un certain nombre de réponses du droit, on se constate que le droit n'est pas du tout mondialisé. Le droit n'est pas mondialisé. Et par exemple, si on prend une liberté fondamentale qui est affirmée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est la liberté de circulation. Mais c'était vrai que c'est extraordinaire dans le monde les progrès de la liberté de circulation. On peut aller n'importe où, pourvu qu'on en ait les moyens. Et donc, on peut aller passer ses vacances aux Bahamas, aller travailler, aller passer un contrat à Tokyo le lendemain, se promener pratiquement dans tous les pays du monde, pourvu qu'on en ait les moyens, et pourvu qu'on soit dans la fraction du monde qui a les droits. Mais les autres, on les assigne à résidence, les pauvres. Les pauvres, ils n'ont pas le droit de foutre le camp de là où ils sont. Hein. Et quelquefois, d'ailleurs, on les chasse de l'endroit où ils sont pour les mettre ailleurs, on les parque dans les camps, etc. Mais quand ils veulent venir vers les pays riches, alors c'est sans gâte,
c'est les sans-papiers, les
pauvres n'ont pas le droit de venir. Bon, ben, il va falloir qu'on se décide un jour à réfléchir à ce problème de la liberté de circulation. Ben, je pense à celui-là, par exemple, dans le monde. Et puis, il faut effectivement se dire qu'il faut une justice mondiale. Alors, on est en train de mettre en place une justice pénale pour les tyrans. Ça, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que l'impunité est grave. Je pense que ceux qui ont terrorisé un peuple, ceux qui ont fait un certain nombre de crimes, qu'ils soient un jour jugés par la communauté des nations, c'est un progrès. Je ne sais pas pourquoi les Américains sont très hostiles à ça. Est-ce qu'ils ont peur qu'un jour on leur reproche quelque chose? Moi, je me pose la question. Bon, ça, c'est bien. Mais aussi, je dirais, des gens qui disent le droit. Nous avons des progrès en Europe. Par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme, elle fait faire des progrès. C'est vrai, c'est important. Donc, il faut réussir à mettre en place un système de droit. Et donc, nous sommes solidaires. Et je crois que le monde est aujourd'hui solidaire et que nous ne résoudrons pas les problèmes des droits de l'homme. On parlait des droits de l'homme en France tout à l'heure. Bon, le poids du problème de l'immigration sur le respect des droits de l'homme en France est considérable. Donc, si au lieu de résoudre ce problème de l'immigration par une espèce de fantasme extraordinaire de contre les envahisseurs qui génèrent le racisme, enfin on le sait bien, et le besoin de jeter tous ces gens à la mer, stupide tout ça. Si on posait le problème différemment en termes d'intégration, mais en termes aussi de relations avec les pays d'origine, non plus de relations où on va chercher à tirer du pognon de ces pays-là, mais une relation avec laquelle on va essayer de partager avec eux. Bon, alors, c'est l'aboutissement des droits de l'homme, mais malheureusement, l'idéologie des droits de l'homme, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas au pouvoir.
Malgré tout, tu ne convaincras aucun énarque là-dessus. Hein.
Oh, je pense qu'il y a des énarques qu'on peut convaincre quand même. Oh, non. Je pense qu'on peut convaincre certains énarques. Allons, ne soyons pas racistes à l'égard des énarques.
Bien, ben écoute, on te remercie. Et si tu souhaites à un moment quelconque sur un problème intervenir sur Fréquence Paris Pluriel, nous sommes à ta disposition.
Eh bien, c'est avec plaisir.
Bien, merci beaucoup. Au revoir, Henri Leclerc.